Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, en ligne de mire, le prix Turgot. En effet, le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière sera décerné au Palais du Luxembourg pour sa 21e édition le 4 mars prochain, à l'invitation du rapporteur général du budget de la Commission des finances, le sénateur Philippe Marini. Et comme chaque année, dans les salons prestigieux de Beaufranc de la présidence. On peut dire, sans fausse modestie, que le prix Turgot est au monde de l'économie et de la finance ce que le Goncourt est à la littérature et au grand public. Le tirage en moins, certes. Il reste que le prix Turgot s'est affirmé au cours de ces dernières années comme un événement national, regroupant chaque année près de 500 personnalités au Sénat. C'est donc le grand rendez-vous annuel des professionnels et des experts de la finance. Le jury de présélection vient de faire connaître la liste des auteurs des 6 ouvrages qui seront appelés à concourir. Une présélection particulièrement sévère, puisque si j'ai bien compris, cette année nous avons eu affaire à un pic de parution. Presque 300 ouvrages ont été sortis dans le périmètre de ce prix, ce qui témoigne de la qualité de cette présélection et du nouveau cru dénominé. Cette présélection était donc une excellente opportunité pour rencontrer 3 grands acteurs de ce prix. Ce sont mes 3 invités. Le président Michel Bon. Bonjour Michel Bon.
Bonjour.
Le président Pierre Jarre, président d'honneur du prix.
Bonjour
Pierre. Et Philippe Dessertine, le directeur général de l'Institut de Haute Finance.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre antenne. Merci d'avoir donné un peu de votre temps, que je sais à tous les 3 particulièrement précieux. Alors, nos auditeurs vous connaissent particulièrement bien. Je rappellerai simplement Michel Bon. Vous êtes, comme on dit de façon familière, un grand patron. Vous êtes inspecteur des finances. Vous avez présidé aux destinées de plusieurs grandes entreprises du CAC 40, de même qu'un think tank, si je me souviens bien, l'Institut de l'entreprise. À côté de multiples autres responsabilités, vous êtes actuellement président du conseil de surveillance de Devoteam. Ce qu'on sait sans doute un peu moins, c'est que vous êtes un grand lecteur, vous aimez lire, sans exclusive. Vous connaissez en outre particulièrement bien le monde de l'édition et de la finance. Alors ceci est particulièrement réconfortant au moment où une étude récente vient d'indiquer que plus d'un Français sur 4 ne lit aucun livre et que parmi les lecteurs, 40% en lisent moins de 10 par an. Alors je crois que vous êtes, vous, dans la tranche un peu plus haute. Et vous êtes donc le président du grand jury du prix Turgot, nous allons y revenir. Quant à vous Pierre Jars, vous êtes le compagnon de route de la première heure de ce prix. Vous avez marqué chacune des éditions d'une empreinte indélébile par votre style original et pétillant et une autorité naturelle de compétence. Vous présidez actuellement le groupement des polytechniciens de Paris, le GPX. Vous avez exercé de hautes responsabilités dans la banque et la finance. Vous avez été président notamment de la Fédération européenne des analystes financiers, président de Standard & Poor's, et vous avez par ailleurs contribué à la formation de nombreuses générations de dirigeants à travers le CPA, le Centre de perfectionnement des affaires, et l'Institut supérieur de la banque, où vous avez professé. Vous avez décidé depuis quelque temps de prendre du recul et d'aller en direction de votre cher sud-ouest. Mais vous restez très connecté avec le prix Turgot et vous restez un des lecteurs et un des acteurs de premier ordre. Et vous êtes maintenant le président d'honneur de ce prix. Bonjour Philippe Dessertine, vous êtes le directeur général de l'Institut de Haute Finance, professeur agrégé des universités, docteur en finance. Vous dirigez en outre le département finance de l'Université de Nanterre, ainsi que le CEROS, qui est donc un bureau de recherche et d'études en finance. Et vous êtes, nous y reviendrons tout à l'heure, un des premiers partenaires officiels du prix Turgot, à travers notamment le groupe IFG. Alors revenons donc au prix Turgot et à sa 21e édition. Pour une première question au président Michel Bon, ce prix, je le rappelle, est organisé par l'Association des élèves et anciens élèves de l'Institut de haute finance, l'IFI, qui forme des experts de la finance. On se souvient que l'IFI a été créé par le président Georges Pompidou et que jusqu'à une date récente, son directeur était nommé par le président de la République. Ce sont donc les anciens élèves de l'Institut de haute finance qui organisent un club de lecture qui présélectionne ces livres qui sont donc soumis au grand jury. Vous venez de recevoir ces nominés à l'hôtel de Guénégaud, comme c'est la tradition. Quelles sont vos premières impressions? Et d'abord, quels sont ces nominés?
Ben, il faut d'abord peut-être tirer un coup de chapeau à ceux qui font la présélection, parce que même si on est grand lecteur, 300 livres, c'est quand même trop. Les anciens de l'IFI qui font ce travail de présélection ont fait un travail énorme et sans lequel, je pense, le prix ne fonctionnerait pas. Quoi. Donc c'est très important. Je suis d'ailleurs moins pessimiste que vous sur les lecteurs. Vous nous dites, il y en a un quart qui lit jamais, il y en a dedans ceux qui lisent, il y en a un tiers qui en lit moins de 10. Si je compte bien, ça fait quand même plus de la moitié qui en lit plus de 10. Mais il faut penser à présenter les choses sous leur jour positif aussi.
D'accord. Donc vous êtes plutôt
plus de la
optimiste.
Moitié qui lit plus de 10, c'est pas mal quand
c'est
même.
Pas mal, c'est pas, pas mal.
Oui.
C'est pas mal.
Bon, alors ceci étant, cet optimisme n'est pas partagé par la présélection de cette année. Au total, sur les 6 livres qui ont été présélectionnés, il y en a quand même 4, on va dire, qui varient entre le gris foncé et le noir brut. Donc, ça s'explique peut-être par le fait que nous vivons dans un temps où on sent un peu un retournement de l'économie, on s'inquiète un peu sur notre avenir, spécialement en France, etc. Bon, au fond, les auteurs reflètent toujours un peu l'air de leur temps. Alors, dans ceux qui sont assez noirs, il y a, je vais les prendre par ordre alphabétique, oui. Il y a Patrick Artus, qui est un ancien nominé de, un ancien prix Turgot.
Oui, prix spécial, oui.
Pour son livre Les Incendiaires chez Perrin, qui est un livre qui, contrairement à ce que le titre pourrait suggérer, s'intéresse sérieusement à un sujet assez sérieux, qui est celui des banques centrales, qui est d'ailleurs un des grands thèmes d'analyse de Patrick Artus, où il fait l'analyse que, au total, les banques centrales sont pas assez rigoureuses quand ça va bien et trop laxistes quand ça va mal. Ce qui n'est pas exactement l'image que, disons, au moins la classe politique cherche à donner de Jean-Claude Trichet, par exemple. Mais il y a à l'appui de tout ça beaucoup de chiffres, de données qui sont assez convaincants. Et au fond, son diagnostic est que, par la faute, finalement, de ceux qui sont censés nous protéger des désordres, nous allons vers des désordres plus grands encore. Je résume beaucoup.
Oui. Et puis c'est un thème qui est en plein dans l'actualité.
Assez. Alors, il y a ensuite un autre livre également un peu pessimiste qui de Nicolas Bouzou, qui s'appelle « Petit précis d'économie appliquée à l'usage du citoyen pragmatique ». Alors, derrière ce nom un petit peu compliqué, il y a une... l'auteur est un économiste, lui aussi, il est chef d'entreprise également. Il y a une charge assez violente quand même, il faut bien dire, sur... tout ce qui ne va pas singulièrement chez nous. Mais c'est présenté de façon assez stimulante, je dirais, et même si on en sort quelquefois un petit peu accablé en se disant bah, « c'est vrai que ça n'a pas l'air d'aller du tout », ça fait réfléchir et sans doute ça aide à progresser. Toujours dans le genre assez noir, il y a le livre de François Langlais qui est le... Alors, j'ai oublié, Monsieur Bouzou est publié chez Erol. François Langlais, lui, est le rédacteur en chef d'Enjeux les Échos et il publie chez Perrin « La crise des années 30 est devant nous ». Et alors, il accumule pendant son livre, qui se lit très facilement, c'est un journaliste, donc ça, on sent la patte du journaliste, avec d'ailleurs d'assez jolies formules, souvent. Il accumule les similitudes entre... au fond, l'état d'esprit de l'entre-deux-guerres, donc autour de la crise de 1929, quoi, et notre état d'esprit actuel. Et alors, même si on passe son temps à se dire « mais non, c'est pas possible, l'histoire ne bégaye pas », c'est quand même souvent assez convaincant, quoi. Il a retrouvé notamment des auteurs de l'entre-deux-guerres qui ressemble furieusement à nos déclinistes ou nos déclinologues d'aujourd'hui, quoi. C'est assez impressionnant comme bouquin, même si finalement la thèse reste quand même contestable. D'ailleurs, lui-même admet bien que l'histoire ne bégaye pas. Et enfin, il y a le livre de Madame Claude Revel, qui s'appelle « Nous et le reste du monde » aux éditions Saint-Simon, qui est un état des lieux, mais un état des lieux qui s'applique avec un regard qu'en France, on n'a malheureusement pas assez souvent, qui est au fond, qu'est-ce qui se passe chez les autres? Que font les autres? Et c'est souvent frappant de voir à quel point nous regardons nos problèmes sans s'intéresser à ce qui se passe à côté, quoi. Donc, elle le fait. Et cette comparaison n'est pas tellement flatteuse, je dirais. Le miroir qu'elle nous renvoie fait un peu peur. Alors, il y a à côté de cela deux ouvrages qui sont moins dans ce pessimisme que je décris, même si le premier des deux, celui de Michel Aglietta et de Laurent Bérébi, qui s'appelle « Désordre dans le capitalisme mondial » chez Odile Jacob, n'est pas franchement optimiste, sa thèse étant que le capitalisme, dans ses développements, crée en lui-même de nouveaux désordres. Au fond, il arrive à faire des choses magnifiques, comme par exemple le développement de l'Asie, quoi. Mais ce développement même suscite de nouveaux désordres. Donc là, on n'est plus dans une vision linéaire de l'histoire, où au fond, les choses avancent, mais elles créent de nouveaux problèmes. Et c'est fait de façon très sérieuse et très documentée. Enfin, c'est un livre un peu de référence assez solide. Et enfin, le dernier ouvrage présélectionné, nominé, comme on dit, est celui de Vivien Lévy-Garbois et de Gérard Marek, qui sont deux économistes importants dans deux grandes banques, et qui s'appelle « Macro-psychanalyse, l'économie de l'inconscient ». Au PUF, oui. Comme nous vivons dans une époque où, au fond, le règne de la raison est assez contesté, quoi, les substituts à la raison, comme par exemple tout ce que vous explique la psychanalyse, sont à la mode. Et ils sont allés chercher, les auteurs, dans la psychanalyse, une espèce de, enfin, un regard nouveau sur le comportement humain. Or, l'économie, évidemment, est la somme de comportements humains. Chaque homo economicus est probablement travaillé, si on croit en tous les cas les psychanalystes, par des forces inconscientes, et ils sont donc allés chercher dans la psychanalyse des outils d'analyse de l'économie. Alors ça, c'est un rapprochement qui est assez original et qui est effectivement extrêmement intéressant, mais ça aussi, c'est un ouvrage plus de référence, sans être pour autant si difficile d'accès que cela. Voilà, donc un très bon cru avec des ouvrages assez variés nous aidant, je crois, à bien prendre mesure de nos problèmes.
D'accord. Merci. Ben, je vous ai donné un panorama complet de cette présélection qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, est particulièrement brillante. Et je rappelle simplement, je ne crois pas qu'on l'ait dit, que Claude Revel a publié chez Saint-Simon. Chez Saint-Simon. Et alors, je me tourne, merci Président, vers maintenant Pierre Jarre, pour lui dire, lui qui a l'historique, est-ce que ça le surprend, ce cru? Est-ce qu'il est conforme à ce qu'il a connu précédemment? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'historique de ce prix?
Oui, tout d'abord, je remercie infiniment Jean-Louis Chambon. Quand il dit que je souhaite prendre du recul, c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose en moi qui avance, c'est l'âge. Alors ça, c'est irrémédiable. Et il y a une deuxième raison qui fait que quand on recule et que d'autres choses avancent, on peut s'écarter, c'est qu'il y a des gens brillants, remarquables. Jean-Louis Chambon est président du prix Turgot parce que président de l'association des anciens de l'IFI. Ce n'est pas des gens qui nous écoutent que je décrirai les talents et l'âge jeune de Michel Bon. Quant à notre camarade de Sertine, lui en plus, il ajoute tout ce que nous pourrions ne pas avoir, nous, le savoir universitaire, etc. Donc, voyons le trio qu'ils forment tous, que les anciens aillent prendre du recul. Alors, le prix, c'est vrai, j'ai l'agréable privilège d'avoir connu le premier, comme on est au 21e, la soustraction est facile pour vous, vous voyez. L'idée, c'est que, quand j'ai fait du droit en sortir de Polytechnique, on disait il faut faire de l'économie politique. Maintenant, on dit des sciences économiques, on peut discuter. Mais en tout cas, on a trouvé, et il y a déjà longtemps, que la finance nécessitait une économie financière un peu particulière. Un certain Jean-François Daigne, remarquable, qui dirigeait l'IFI de l'époque, a donc eu cette idée de créer un prix pour permettre ne serait-ce qu'aux gens qui venaient chez lui de lire des bouquins intéressants et qui pouvaient leur être utiles au-delà des cours que faisaient les profs comme moi, sûrement inférieurs en qualité aux livres qu'ils proposaient. Le prix Turgot s'est assez vite développé. Un certain Stéphane Solotareff a eu le premier l'idée, d'ailleurs, d'appeler prix Turgot ce qui n'était que le prix du livre d'économie financière, et d'obtenir qu'une descendante remarquable de ce grand Turgot accepte que son nom soit ainsi utilisé.
Oui, Madame Denora Turgot, présidente de la Société des Amis de Turgot.
Voilà. Donc, vous voyez que nous avons de solides bases. Alors après, eh bien, il y a le choix qui fait que, d'année en année, on lit des livres tous passionnants, quelquefois marqués d'un côté présent, parce que ce sont des sujets qui sont à la mode. On a eu, par exemple, des sujets sur l'euro, c'était évident. On a eu des sujets sur les horribles crises qui sont passées il y a 3 ans, 4 ans, quand la comptabilité de certaines grandes entreprises, non pas peut-être dans le bilan, mais encore plus dans leur bilan, faisait apparaître de fâcheux dégâts. Je ne doute pas que l'an prochain, on entendra beaucoup parler de crédits qu'on peut faire aux particuliers. Donc il y a un aspect mode à certains moments dans les sélections. Mais en même temps, comme vient de le dire le président Michel Bon, des ouvrages qui, eux, sont, je ne dis pas éternels, mais de base, parce qu'ils s'adressent à des problèmes fondamentaux. Et que donc, au-delà de la nouveauté de la chose, ou du fait qu'on retrace quelque chose qui, je ne dirais hélas pas à la mode, mais dont on parle, il y a des ouvrages de base. Puis on a découvert aussi des jeunes absolument remarquables. Nous avons vu arriver un jour une jeune femme de 30 ans, d'origine marocaine, parlant un français remarquable, ayant fait un livre absolument passionnant, venu recevoir le prix d'ailleurs avec ses parents venus de Casablanca. Puis nous avons eu un autre, le jeune Mango, qui je crois avait 30 ans quand il a fait
un livre absolument
remarquable. Ce qui veut dire que ce prix d'économie financière a comme mérite le fait de vraiment choisir ce que nous pensons qui marque dans l'année qui vient de passer. On peut se tromper, on peut aussi assez souvent tomber assez bien.
Très bien, merci Pierre Jarre. Alors on va venir maintenant à la nomination. Après la nomination, il y a le palmarès. Et donc avant d'arriver au palmarès, il faut passer devant un grand jury qui est donc présidé par Michel Bon. Et Michel Bon, donc, vous pouvez nous rappeler comment fonctionne ce grand jury et quelles sont les personnalités qui le composent, enfin en synthèse.
Facilement, il y a 22, je crois, membres dans ce jury qui sont en train de lire les 6 livres dont je viens de parler.
C'est la règle du jeu.
Ce qui est quand même du travail. D'autant que certains font quand même 300-400 pages, d'autres sont plus modestes. Alors, dans ce jury, il n'y a que des gens évidemment tout à fait remarquables. Pour citer quelques noms que le grand public qui écoute Canal Académie risque de connaître, sans vouloir vexer les autres, Philippe Marini, dont vous avez déjà parlé, c'est le sénateur. Il y a Daniel Vitry, qui est l'un des directeurs du ministère de l'Éducation nationale, professeur, enfin, assez connu dans le monde universitaire, je dirais. Dans le monde bancaire, il y a, par exemple, Jacques-Henri David, ou bien... Jacques Lenormand, un de mes vieux complices du Crédit Agricole, tout à fait, oui. Dans le monde financier, il y a Jean-François Théodore, le président du REX. Enfin, bon, je ne vais pas insister, parce que sinon, je vais vexer des gens.
Ce sont tous d'éminentes personnalités.
Bon, alors, donc, nous aurons une réunion du jury, et puis là, nous allons... former une opinion pour décerner les prix. Alors, les prix, il y en a normalement 2, plus des mentions. Alors, il y a le prix Turgot, qui, en principe, va plutôt vers un ouvrage, disons, grand public, c'est-à-dire qu'il soit d'accès relativement facile, sauf lorsque, Pierre-Jean me le rappelait tout à l'heure, il y a quelque chose qui paraît tellement novateur, tellement intéressant, que même si c'est un peu technique, on veut vraiment marquer l'attention en le désignant pour le prix. Enfin, en principe, quelque chose de plus grand public. Et puis, il y a un prix spécial qui, alors lui, est plus destiné à célébrer une avancée, on va dire, dans la pensée, ou dans la technique économique et financière. Et puis alors, comme il y a des choses que nous nous interdisons, par exemple, récompenser des ouvrages collectifs ou bien sortir trop quand même de notre précaré économie financière, je comprends qu'on se permet chaque année des mentions spéciales qu'on donne donc soit à des ouvrages collectifs, soit à des choses qui sont un peu à la marge de ce que l'on sélectionne d'habitude.
D'accord. Merci, Président. Donc, je rappelle que les deux missions principales du prix Turgot, c'est d'abord de reconnaître les auteurs, de les encourager, parce qu'en la matière, ils ont besoin d'être encouragés, et les tirages étant relativement confidentiels. mais c'est aussi de vrai dans le sens de la pédagogie économique. On sait les uns et les autres que l'insuffisance de connaissances économiques constitue des blocages, et on sait que la société française peut souffrir de ces blocages. Alors je me tourne maintenant vers le professeur Philippe Dessertines pour lui dire, lui qui est donc un des partenaires historiques de ce prix, est-ce que depuis toujours, ces missions sont pleinement partagées par les partenaires officiels, et par ailleurs, avec qui partagez-vous ces convictions ?
Oui, merci Jean-Louis Chambon. Oui, bien sûr, ces missions sont totalement et pleinement assumées par le prix Turgot. Je crois que la description très complète qui en a été faite aussi bien par le président Pierre Jarre, évoquant le passé et la manière dont le prix Turgot avait grandi et s'était développé, ou le président Michel Bon évoquant le processus actuel et la manière dont aujourd'hui le choix du prix va pouvoir avoir lieu, démontre et atteste à quel point la rigueur est toujours présente dans le mode de fonctionnement, combien les membres du jury, les lecteurs, sont des personnes qui sont impliquées dans la vie financière réelle. C'est-à-dire que nous sommes réellement dans une approche où, lorsque le prix va être décerné, lorsque la discussion aura lieu, nous aurons une vraie discussion sur le fond, sur les intérêts, les thèmes, les thèses développées à l'intérieur des livres. Et donc, nous pourrons vraiment fournir, en quelque sorte, au public, au lecteur, une idée de l'intérêt ou de l'approche, ou l'originalité que pourrait revêtir un ouvrage. Et donc, je pense que cette rigueur explique pourquoi le club de ceux qui supportent, des organisations qui supportent le prix Turgot, est un club, on va dire, représentant bien les grands acteurs qui peuvent être intéressés par ce type de développement. Peut-être si on devait les citer, les regrouper, nous avons donc l'Institut français de gestion, effectivement, qui abrite l'Institut de haute finance, donc dont les anciens élèves sont à l'origine de la création du prix Turgot. De la même façon, nous avons la DFCG, l'Association des directeurs financiers contrôleurs de gestion, donc deux organismes qui apportent et réfléchissent à la manière de développer une représentation et un enseignement de la finance. Nous avons également, je dirais, des partenaires qui sont intéressés directement à l'émergence d'idées, comme la Revue Banque ou le quotidien La Tribune, quotidien économique. Mais nous avons également des entreprises qui sont au cœur de la question financière. Je pense à Viveo ou à Viel et Compagnie, à KPMG, voire à des banques comme le Crédit Agricole ou le Crédit Lyonnais. Enfin, dernier à avoir rejoint la liste, et non des moindres, Paris Europlace, donc reflétant la manière dont l'ensemble des partenaires aujourd'hui voudraient, par le prix Turgot, susciter une véritable réflexion de langue française dans l'horizon de l'économie, on va dire, européenne au sens large, et plus précisément française, une véritable réflexion pour analyser, comprendre les phénomènes financiers qui souvent, évidemment, sont des phénomènes internationaux, et analyser aussi la manière dont nous pouvons réagir dans les organisations, dans l'économie française, vis-à-vis de ces phénomènes. Et je crois que le prix Turgot, quand on regarde la liste des différents lauréats dans le passé, aussi bien des lauréats du prix lui-même que du prix spécial, au fond, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, a souvent été non seulement dans l'air du temps, mais souvent en avance, ou en tout cas en complément des réflexions peut-être un peu simples qu'on entend ici et là. On a véritablement autour du prix Turgot quelque chose qui permet d'enrichir la pensée, qui permet d'enrichir la réflexion, et surtout, ce qui est la raison pour laquelle ces partenaires sont présents, qui permet d'enrichir l'action, puisque l'intérêt de ces ouvrages est aussi de permettre d'enrichir l'action.
D'ailleurs, les partenaires se retrouvent en même temps que les lauréats dans le cercle des lauréats pour régulièrement, une fois ou deux par an, approfondir des questions particulières d'actualité ou de fond. Voilà donc pour ce premier point. Je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse quand même, puisqu'on est avec aujourd'hui d'éminents experts de la finance sur l'actualité. On dit que le prix Turgot a notamment des vertus prédictives. Alors, ça donne quelques frissons quand on sait qu'on a dans les présélectionnés un livre qui s'appelle « La crise des années 30 est devant nous ». Peut-être un mot chacun de vous, une observation sur l'actualité, la crise financière qui commence. Je crois d'ailleurs que l'actualité est notamment boursière et particulièrement fluctuante. Philippe, peut-être, vous revenez d'Amérique, vous avez touché de très près le grand mal.
Oui, j'étais la semaine dernière donc, dans la session spéciale de l'Institut de haute finance à New York. Nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs grands acteurs de la vie économique américaine. Il est évident qu'actuellement, le climat à New York et aux États-Unis est un climat extrêmement inquiétant. Quand on parlait tout à l'heure de gris sombre ou de noir, effectivement, les choses virent plutôt au noir. Le problème économique domine le débat politique actuellement dans les élections américaines. Les perspectives que nous avons eues par les grands professionnels de la finance sur la place de New York vont plutôt dans le sens d'un démarrage de crise, d'un processus de crise qui pourrait être relativement long. On va dire que l'échéance la plus brève serait le premier semestre de l'année 2008. Les événements vont peut-être nous montrer qu'il y aura prolongement ou qu'il y aura rebond dans le deuxième semestre. C'est autour de plutôt cette...
Mais l'inquiétude est toujours là, quoi.
L'inquiétude est extrêmement présente, oui.
Michel Bon, je sais pas, peut-être un mot sur l'actualité ?
Volontiers. Les auteurs des ouvrages que nous avons sélectionnés, ce ne sont pas des plaisantins, ce sont des économistes, des professeurs, des gens très sérieux, très connus, souvent. S'ils convergent vers le noir... C'est pas pour le plaisir de faire mode, quoi. C'est parce que les faits qu'ils manipulent tous les jours, c'est leur métier, quoi, leur paraissent alarmants. Et l'addition de ces faits leur semble, par rapport à ce qu'ils pouvaient être il y a 10 ans, il y a 20 ans, être un signal d'alarme plus fort que par le passé, singulièrement pour la France, dont ils s'accordent à estimer qu'elle a décroché depuis une vingtaine d'années. Ouais. Quoi. Et singulièrement depuis 10 ans. Donc, c'est plus ou moins leur devoir de nous dire il faut faire quelque chose. Alors là, on en vient à une vision un peu plus philosophique des crises, où au fond, toute crise porte en elle des germes d'amélioration. Et sans crise, nous ne ferions peut-être pas le nécessaire aussi fort, aussi vite, aussi profondément. Que maintenant, l'activité humaine... ne soit pas linéaire, connaissent des hauts et des bas, bah oui, nous le savons bien dans nos vies, à nous.
Mmh. Tout à fait, les crises, c'est un mode de régulation, hein, lorsqu'il n'y en a pas autrement. Merci Président.
Je suis d'un pays d'origine méridionale. Pour moi, ça s'apparente à la gueule de bois. On en a trop fait et on le supporte. Mais justement, avec l'âge et pour cause que je connais, on en a vécu un certain nombre. Je me rappelle à l'époque où le prix du pétrole est passé de 1 dollar à 5 dollars. Il avait quintuplé. On a considéré à l'époque que c'était la fin de tout. Et les pétrodollars, on en parlait sans arrêt. Bon, maintenant, on retrouve des pétrodollars d'ailleurs. L'effondrement de 68, puis il y a eu l'effondrement de 88, il y a eu des chocs boursiers. Tout le monde sait que c'est un peu comme les tempêtes, c'est pas agréable quand on est dedans, c'est déplaisant quand on en meurt, certains en meurent, d'autres survivent et éventuellement en tirent agréablement parti.
Tout à fait.
Je me rappelle ceux qui, en 89, ont commencé à avoir l'intelligence de commencer à racheter. Alors, un certain monsieur Rothschild a dit, je crois, que s'il avait fait fortune, c'est ce qu'il disait. Je sais pas s'il l'a fait. Il n'avait jamais vendu au plus haut, ni acheté au plus bas.
Ah oui,
alors,
ça, effectivement, c'est...
Nous avons encore un peu de marge, semble-t-il, pour nous porter acheteurs. Alors, ce qui nous amène quand même à réfléchir. Si on a une gueule de bois, c'est qu'on a trop bu. Si on a trop bu, c'est qu'on a dépassé les limites. Comme vient de dire le président Bon, et quelles sont ces limites? Et que peut-on essayer de ne plus continuer à faire, sans que nécessairement on aille, comme 1930, à avoir des dizaines de millions de chômeurs dans les grands pays. C'est facile de dire, mais regardons ce qu'a été 33 en Europe, ce qu'a été 33 aux États-Unis, où les banquiers sautaient par les fenêtres, et il y avait déjà des gratte-ciel, ce qui fait que l'arrivée était déplaisante. Enfin bon, donc c'est un mauvais moment. D'accord. Il y a 3 ans, quand on a parlé des scandales de Enron et tout ça, on nous a dit c'est effrayant, insupportable, inadmissible.
Sagesse donc, bon sens et patienter.
Mais patience. Patience.
Bien. Donc ceci peut-être nous ouvre sur la dernière partie et dernière question. C'est-à-dire c'est l'avenir du Puerto Rico. Alors l'avenir immédiat, on le sait, hein, c'est le 4 mars, donc le palmarès au Sénat. Cela étant, vous avez peut-être réfléchi, Président Michel Bon, à certain nombre d'évolutions qui pourraient être faites par le Puerto Rico, notamment peut-être sur son périmètre ou sur ses critères de sélection.
Ça, je ne vais sûrement pas réfléchir tout seul au prix Turgot. Hein. Je ne suis que le président du jury. Il y a un jury, il y a une association, il y a des tas de gens qui s'intéressent à ça avec talent. Donc, je ne ferai rien qui n'ait leur accord. Et bon, non, ce que je crois, c'est que moi, je crois au prix. Vous voulez. Oui. Les prix font lire en littérature, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas lire ailleurs. Et vous disiez tout à l'heure, il y a eu 300 livres d'économie publiés cette année. Comment voulez-vous que celui qui s'intéresse un peu à l'économie s'y retrouve dans tout ça? Il n'a aucune chance d'y parvenir. Bon, il peut avoir une critique ici ou là qui va l'aider dans un journal, mais enfin bon. Donc, les prix servent à cela. Il est donc excellent qu'il y ait un prix du livre d'économie qui dise au grand public, bah, celui-là... Il y a des gens, en principe un peu sérieux, qui vous disent « ça vaut la peine, allez-y ». Quoi. Donc, je pense que ce que le prix Turgot doit d'abord faire, et il le fait très bien d'ailleurs, hein, c'est ça, attirer l'attention sur un ou plusieurs livres. Alors après, on peut effectivement débattre sur le point de savoir si on doit rester assez grand public, être plus spécialisé, se diversifier, ce qui est déjà un peu le cas avec le prix spécial. On peut débattre sur le point de savoir si on doit rester franco-français, on est assez franco-français quand même, ou bien s'ouvrir au monde, voire même à des étrangers. On peut débattre aussi sur la question des ouvrages collectifs. Je trouve que la règle actuelle est assez sage. Les ouvrages collectifs, c'est souvent des petits étudiants qui ne connaissent pas la gloire qui les écrivent et des professeurs qui ont déjà connu la gloire qui en bénéficient. Vous voulez donc... Bon, enfin, je n'en sais rien, après tout.
Oui, passons à des pistes de réflexion.
Voilà.
D'accord, très bien. Bien, eh bien écoutez, je pense que peut-être un mot à rajouter, Philippe, de votre côté, sur le prix, notamment sur nos partenaires médias, parce qu'en fait, tout ce qui est fait est bien fait, encore faut-il le faire savoir. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons un partenaire historique qui s'appelle La Tribune, mais il y a d'autres partenaires... spécialisé et notamment dans les radios. Canal Académie, bien entendu, fait partie de ses accompagnateurs, mais aussi Radio Classique, AGFI, et puis tout récemment BFM, qui était la petite radio qui monte, si je puis dire, un peu comme était M6. Hein. Écoutez, messieurs, cher président, il me reste maintenant à vous remercier, à vous souhaiter un très bon prix Turgot. Je rappelle donc le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière avec le président du grand jury Michel Bon, un des partenaires officiels très très actifs, l'Institut de haute finance et l'Institut français de gestion, et son président d'honneur Pierre Jarre, le 4 mars au Sénat. Messieurs, merci encore.
Merci.